les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Hector Poirot quitte la scène. Pardon, Hector, vraiment ? Non, c'est un lapsus. Un roman qui apparut au lendemain de la mort d'Agatha Christie. Non, deuxième lapsus. C'était avant sa mort. Ah, les lapsus. Mais vraiment des lapsus ? Francis Lacassin souhaitait sans doute brouiller les pistes en 1985 lorsqu'il présentait la nouvelle d'Agatha Christie, Témoin à charge. Témoin à charge, devenu pièce de théâtre, puis devenu un film de Billy Wilder avec Tyrone Power, Charles Laughton et bien sûr Marlène Dietrich.
Les nouvelles du crime. Texte choisi et présenté par Francis Lacassin.
Avant de mourir en 1977, Agatha Miller, dite Agatha Christie, a pris la précaution de tuer son détective dans Hector Poirot quitte la scène. Un roman qu'elle tenait en réserve depuis des années et qui a paru au lendemain de sa mort. Agatha Christie et Hercule Poirot sont donc partis ensemble après 57 ans de vie commune. L'épouse du colonel Archibald Christie, née en 1891, avait 29 ans lorsqu'elle écrivit en 1920 la première enquête de Hercule Poirot, la mystérieuse affaire de Steele. En 1927, Agatha Christie se remaria avec un détective de l'Antiquité, l'archéologue Max Malouane, ce qui lui permit d'écrire plus tard, sous le titre « La mort n'est pas une fin », un roman policier qui se passait tout simplement dans l'Égypte des pharaons. C'était une façon comme une autre de renouveler les structures du roman-problème ou du roman-énigme dont elle reste la représentante la plus experte. Alors, familière du local clos, Agatha Christie s'est divertie à renouveler celui-ci, par exemple en le transportant dans un bateau flottant sur le Nil ou dans l'Orient Express bloqué en pleine campagne. Mais qu'il reste ou non amarré à la campagne anglaise, le local clos, qui est le local type et le paradis permis tous les paradoxes du roman problème, le local clos donc, reste toujours dépositaire de cadavres et générateur d'un labyrinthe de déductions que les cellules grises de Hercule Poirot traitent toujours avec la rigueur mathématique d'un ordinateur. Bien que privé de la présence parfois encombrante de Hercule Poirot, la nouvelle Témoin à charge démontre la virtuosité avec laquelle Agatha Christie déroute le lecteur par des fausses pistes ou par des retournements inattendus.
Monsieur Mayerne ajusta son pince-nez et s'éclaircit la voix avec la petite toux sèche qui lui était coutumière. Puis il dévisagea de nouveau l'homme qui lui faisait face et qui était accusé de meurtre avec préméditation. Monsieur Mayerne, homme de petite taille, avait des manières assurées, était élégamment vêtu et son regard perçant dénotait une vive intelligence. Il avait la réputation d'être un avocat remarquable. Il parla à son client d'une voix calme, empreinte de sympathie.
Je dois vous répéter que vous courez un grave danger et qu'il vous faut être absolument franc.
Léonard Vol, qui fixait le mur d'un air affolé, tourna les yeux vers son interlocuteur et répondit avec lassitude.
Je le sais bien, car vous me le répétez sans cesse, mais je ne réalise pas encore que je suis accusé d'assassinat et d'assassinat dans des conditions si affreuses. »
Mayerne était un peu émotif. Il toussota encore, ôta son lorgnon, l'essuya avec soin, le replaça sur son nez et répondit :
Oui, oui, cher monsieur. Nous allons faire un gros effort pour vous libérer. Et nous réussirons. Toutefois, il faut que je sois au courant des moindres détails afin de connaître l'étendue de l'accusation qui pèse sur vous. Après quoi, nous déciderons de la meilleure façon de vous défendre.
Le jeune homme continuait à le regarder du même air incompréhensif. Jusqu'alors, Maillard n'avait jugé l'affaire très grave et cru à la culpabilité du prisonnier. Pour la première fois, il éprouvait un doute.
Vous me croyez coupable, mais je jure devant Dieu que je ne le suis pas, quoique les apparences me désignent. Je suis dans un filet dont je ne puis me débarrasser, mais je suis innocent, maître, innocent.
Maillard n'ignorait pas que dans un cas semblable, tout homme s'exprimait ainsi. Pourtant, il se sentait troublé. Léonard Vol était peut-être innocent.
Il est certain que votre situation paraît très inquiétante. Pourtant, je veux bien vous croire. Venons au fait. Je désire que vous m'exposiez exactement comment vous avez fait la connaissance d'Emily French.
Un jour, dans Oxford Street, je vis une dame âgée qui traversait la rue et qui portait de nombreux paquets. Arrivée au milieu de la rue, elle les laissa tomber et essaya de les ramasser. Elle s'aperçut qu'un autobus arrivait sur elle, parvint tout juste à gagner le trottoir et y resta terrifiée car les passants l'interpellaient violemment. J'ai ramassé les paquets, les ai essuyés de mon mieux, renoué la ficelle de l'un d'eux et les lui ai remis.
Vous m'avez sauvé la vie.
Certes non. J'avais simplement fait un geste courtois. La vieille dame se montra fort reconnaissante, me remercia vivement et fit allusion à ma courtoisie supérieure à celle des jeunes générations. Je ne me souviens pas de la phrase exacte. Je soulevai mon chapeau et m'éloignai, convaincu de ne jamais la revoir. Mais la vie est pleine de coïncidences. Le soir même, je retrouvai cette personne à une soirée chez des amis. Elle me reconnut et demanda que je lui fût présenté. J'appris qu'elle se nommait Emily French et habitait Creek Leo. Nous causâmes un instant. Je suppose qu'elle devait éprouver des sympathies subites, car je lui plus à cause d'un geste poli que n'importe qui aurait pu faire. Quand elle partit, elle me serra fortement la main et m'invita à venir la voir. Je répondis que j'en serais ravi et elle me demanda de fixer un jour. Je n'y tenais guère, mais refuser eût semblé grossier, de sorte que je fixai le samedi suivant. Après son départ, j'appris par un vieil ami qu'elle était riche, assez originale, vivait seule avec une domestique et avait 8 chats.
Je comprends. Et vous avez su tout de suite qu'elle était dans une situation aisée.
Si vous vous imaginez que je m'en suis préoccupé, s'écria Vol vivement.
Mais l'avocat le fit taire d'un geste et déclara:
il faut que j'examine l'affaire telle qu'elle sera présentée par la partie adverse. Un observateur impartial n'aurait pas supposé que Miss French fût riche. Elle vivait simplement, presque pauvrement. Si l'on ne vous avait pas dit le contraire, vous l'eussiez probablement jugé peu fortuné. Au début, du moins. Qui vous a appris le contraire?
Mon ami George Harvey, chez lequel avait lieu la soirée.
Se souviendra-t-il de vous en avoir parlé?
Je ne sais pas. Il s'est écoulé pas mal de temps depuis.
En effet. Vous comprenez, le premier soin de ceux qui vous accusent consistera à prouver que vous étiez très désargenté. Ce qui est vrai, je crois.
Léonard Vol rougit. Oui, répondit-il très bas. Je traversais une période de guigne.
En effet, acquiesça Meyern. Étant donc très gêné, vous avez fait la connaissance de cette vieille dame riche et avez cultivé assidûment cette relation. Si nous pouvions déclarer que vous ignoriez qu'elle était fortunée et que vous alliez la voir par pure bonté...
Ce qui est absolument vrai.
C'est possible, je n'en disconviens pas. Non, j'examine la question du point de vue extérieur. Tout dépendra de la déclaration de M. Harvey. Se souviendra-t-il de votre conversation ? Pourra-t-il être troublé par l'avocat de la partie adverse au point de croire que cet entretien fut situé beaucoup plus tard ? Vol réfléchit un instant, puis répondit à ton ferme, mais en pâlissant.
« Je ne crois pas, maître Meyern, que cette manœuvre réussirait. Plusieurs personnes ont entendu ce que disait Harvey et m'ont plaisanté au sujet de ma riche conquête. » L'avocat essaya de cacher sa déception en faisant un geste de la main et répondit
« Dommage. Mais je vous félicite de votre franchise et c'est vous qui me guiderez désormais. Vous voyez juste, et le système que j'envisageais serait désastreux. Laissons cela. Vous avez donc fait la connaissance de Miss French. Vous lui avez rendu visite. » Et vous avez continué.
Il nous faut savoir pourquoi un homme de votre âge, 35 ans, beau garçon, sportif, aimé de vos amis, a consacré une partie notable de son temps à une femme âgée dont les goûts devaient être fort éloignés des vôtres.
Vol tendit les mains en un geste nerveux. Je ne puis l'expliquer, vraiment pas. À la fin de ma première visite, elle m'a supplié de revenir, m'a dit qu'elle était isolée et malheureuse. Il m'était difficile de refuser, d'autant plus qu'elle me témoignait une si grande sympathie que j'en étais touché. Voyez-vous, maître, je suis faible de nature et je ne sais pas dire non. Et vous ne me croiriez peut-être pas, mais après lui avoir fait 3 ou 4 visites, je me suis sincèrement attaché à cette vieille femme. Ma mère mourut alors que j'étais très jeune et une de mes tantes m'a élevé jusqu'à ce que j'aie 15 ans, puis elle est morte aussi. Si je vous avoue que j'étais heureux d'être choyé et gâté, et vous en rirez sans doute.
L'avocat ne riait pas. Il ôta de nouveau son lorgnon, le frotta, ce qui prouvait d'ailleurs qu'il était songeur.
J'accepte votre explication, car j'estime qu'elle est vraisemblable du point de vue psychologique. L'opinion d'un jury pourrait être différente. Je vous en prie, continuez votre récit. À quel moment Miss French vous a-t-elle pour la première fois demandé de vous occuper de ses intérêts ?
Après ma 3e ou 4e visite, elle n'entendait pas grand-chose aux questions pécuniaires et s'inquiétait au sujet d'un placement.
M. Meyern leva vivement la tête.
Attention. La femme de chambre, Janet McKenzie, affirme que sa maîtresse était une excellente femme d'affaires, s'occupait de tous ses placements, opinion corroborée par les déclarations de ses banquiers.
Je n'y puis rien. C'est Miss French qui m'a dit le contraire. L'avocat le dévisagea pendant un instant sans répondre. Bien qu'il n'eût pas l'intention de le dire, sa conviction en l'innocence de son client s'affirmait, car il connaissait la mentalité des femmes âgées et pouvait aisément croire que Miss French, subjuguée par ce beau garçon, avait cherché un prétexte pour l'attirer chez elle. Or, aucun n'était meilleur qu'une incompétence au sujet des transactions bancaires, car elle n'ignorait pas que tout homme est flatté d'être jugé infaillible. Peut-être même avait-elle souhaité faire comprendre à Vol qu'elle était riche. Thank you.
Toutes ces réflexions se présentèrent rapidement à l'esprit de l'avocat, mais il n'en laissa rien paraître et demanda.
« Alors, sur sa demande, vous vous êtes occupé de ses affaires d'intérêt ?»«
Oui. »«
Je vais vous poser une question importante, et il est nécessaire que vous me répondiez franchement. Vous étiez financièrement gêné, et vous aviez la haute main sur la fortune d'une vieille dame qui, de son propre aveu, n'y entendait pas grand-chose. » En avez-vous jamais profité pour détourner à votre bénéfice les valeurs qui vous étaient confiées ? Attendez un instant avant de répondre, car deux lignes s'offrent à vous. D'une part, nous pouvons faire état de votre probité pendant que vous vous occupiez des affaires de Miss French, en insistant sur le fait que vous n'aviez pas besoin de commettre un crime pour obtenir des sommes que vous pouviez vous procurer beaucoup plus facilement. Et d'autre part, dans votre manière d'agir, il y a des détails dont l'accusation pourra faire état. Autrement dit, si l'on peut prouver que vous avez fait chanter cette vieille dame, nous dirons que vous n'aviez alors aucun motif pour la tuer, puisque vous retiriez d'elle un revenu appréciable. Vous voyez la différence ? Je vous adjure donc de réfléchir avant de répondre. Mais Léonard Vol n'en fit rien et dit aussitôt : La manière dont je me suis occupé des affaires de Miss French est parfaitement honnête. J'ai pris soin de ses intérêts du mieux que j'ai pu. Ainsi que n'importe qui peut s'en apercevoir aisément. Merci. Vous me soulagez beaucoup, car je vous crois trop intelligent pour mentir dans un cas aussi important.
Sûrement. Ce qui plaide le plus en ma faveur, c'est l'absence de motif. Si l'on croit que j'ai été au petit soin pour une vieille dame riche, dans l'espoir de lui soutirer de l'argent, et c'est le sens de vos paroles, n'est-ce pas ? Sa mort doit me décevoir complètement.
L'homme de loi le dévisagea, puis il se remit à jouer avec son lorgnon et ne reprit la parole que lorsqu'il l'eut remis sur son nez.
Ne savez-vous donc pas que Miss French a laissé un testament qui fait de vous son principal légataire ?
Comment ? Vol se dressa d'un bond et son désarroi fut évident. Mon Dieu, que dites-vous ? Elle m'a laissé de l'argent ?
Mayerne acquiesça et Vol retomba sur son siège en mettant la tête dans ses mains.
Vous prétendez ne rien savoir à cet égard ?
Prétendre ? Mais je ne savais rien, absolument rien.
Que diriez-vous si je vous déclarais que la femme de chambre, Janet Mackenzie, affirme que vous étiez au courant ? Car sa maîtresse lui avait déclaré vous avoir consulté à cet égard et vous avoir fait part de ses intentions.
Elle ment ! Non, elle exagère. Janet est une femme âgée qui veillait de près sur sa maîtresse et qui ne m'aimait pas. Oui, elle était jalouse et soupçonneuse. Il est possible que Miss French lui ait confié ses intentions et que la servante ait mal compris ou encore... et cru que j'avais fait pression sur elle. Elle doit actuellement se figurer que Miss French le lui avait dit.
Vous ne supposez pas qu'elle vous détestait au point de mentir volontairement.
Léonard Vol parut affecté et consterné.
Sûrement pas. Dans quel but ?
Je l'ignore. Mais elle est très dure à votre sujet.
Le malheureux garçon gémit et murmura.
Je commence à comprendre. C'est affreux. On dira que j'ai poussé Miss French à faire un testament en ma faveur, puis que je suis allé chez elle ce soir-là où il n'y avait personne et qu'on l'a trouvée morte le lendemain. C'est affreux.
Vous vous trompez en disant qu'il n'y eut personne. Jeannette devait sortir en effet ce soir-là, mais à 21h30, elle est revenue pour chercher un modèle de robe qu'elle avait promis à une amie. Elle est entrée par la porte de service et montée dans sa chambre, puis est repartie. Elle a entendu des voix dans le salon, et a cru, sans les reconnaître, que l'une était celle de Miss French et l'autre celle d'un homme.
« À 21h30 ?» dit Vol. «
Il se dressa d'un bond. Alors je suis sauvé, sauvé! À cette heure-là, j'étais de retour chez moi et ma femme pourra le prouver. J'ai quitté Miss French à 20h55. Ma femme était à la maison et m'attendait. Oh, oh Dieu soit loué et béni soit la robe que cherchait Janet Mackenzie.
Dans sa joie, Vol n'avait pas remarqué que l'expression sévère du visage de son avocat ne s'était pas modifiée. Mais quand Meren répondit, toute joie l'abandonna.
À votre avis, qui a tué Miss French ?
Un cambrioleur, ainsi que nous l'avons pensé tout d'abord. Souvenez-vous qu'une fenêtre a été forcée. La victime a été assommée à l'aide d'un lourd levier que l'on a retrouvé près de son corps. Plusieurs objets manquaient. Sans les absurdes soupçons de Janet et son antipathie pour moi, la police n'aurait jamais perdu la bonne piste.
Cela ne suffit pas, répondit l'homme de loi. Ce qui manque n'avait aucune valeur et n'a été dérobé que pour donner le change. Les empreintes laissées sur les fenêtres ne sont pas du tout probantes. Réfléchissez. Vous dites ne plus vous être trouvé dans la maison à 21h30. Mais qui était donc l'homme que Janet a entendu parler à Miss French dans le petit salon? Elle n'eut certainement pas causé amicalement avec un cambrioleur.
Non, répondit Vol. Il semblait surpris et découragé.
Cependant, ajouta-t-il avec plus de force, cela m'exonère. J'ai un alibi. Oh, il faut que vous voyiez tout de suite Romaine, ma femme.
Certes, ce serait déjà fait si elle n'avait été absente lors de votre arrestation. J'ai téléphoné à Scotland Yard. Il paraît qu'elle rentre ce soir. J'irai la voir dès que je quitterai mon cabinet.
Une expression de soulagement éclaira le visage de Vol qui répondit.
Oui, Romaine vous renseignera, grand Dieu. Ah, j'ai de la chance.
Excusez ma question. Êtes-vous très épris de votre femme?
Je crois bien.
Et elle vous aime beaucoup?
Elle m'est très dévouée et elle ferait n'importe quoi pour moi.
Il s'exprimait avec force, mais son avocat était moins enthousiasmé. Est-ce que le témoignage d'une épouse dévouée serait écouté? Il demanda.
En rentrant chez vous, avez-vous rencontré quelqu'un dans la rue?
Personne que je connaisse. Et d'ailleurs, j'ai fait une partie du trajet en autobus. Le conducteur se souviendra peut-être.
Maître Mayerne secoua la tête d'un air dubitatif.
Donc, personne ne peut confirmer le témoignage de votre femme.
Non, mais ça n'est pas nécessaire, il me semble.
Je l'espère. Encore un mot. Miss French, savait-elle que vous étiez marié?
Oh oui.
Pourtant, vous ne lui avez jamais présenté votre femme, hein? Pourquoi?
Pour la première fois, Vol hésita à répondre.
Je ne sais pas trop.
Rendez-vous compte que Janet Mackenzie déclare que sa maîtresse vous croyait célibataire et espérait vous épouser par la suite.
Vol se mit à rire.
C'est absurde. Il y avait 40 ans de différence entre nous.
« Cela arrive, » répondit le juriste d'un ton sec. « Votre femme n'a donc jamais vu Miss French ?»«
Non. »
La voix était à nouveau contrainte.
« Vous me permettrez de vous dire que je comprends mal votre attitude à cet égard. »
Vol rougit, hésita, puis dit enfin...
Je vais vous parler franchement. « Ainsi que vous le savez, j'étais à court d'argent. J'espérais que Miss French pourrait m'en prêter un peu. Elle avait de l'affection pour moi, mais ne s'intéressait pas aux difficultés d'un jeune ménage. J'avais découvert qu'elle supposait que le mien n'était pas heureux et que nous vivions séparés. Or, j'avais besoin d'une certaine somme pour Romaine. Je n'ai rien dit à la vieille dame à qui j'ai laissé croire ce qu'elle voulait. Elle disait que j'étais son fils adoptif et il n'a jamais été question de mariage. Ce doit être une imagination de Janet.
Est-ce tout ?
Oui, absolument tout.
Vol avait-il hésité en prononçant ces mots ? L'avocat se le demandait. Il se leva et tendit la main en disant
« Au revoir, monsieur !»
Puis en regardant le visage hagard du jeune homme, il ajouta, poussé par une impulsion
« Je crois à votre innocence en dépit de tous les faits qui semblent vous accuser. J'espère le prouver et je vous soutiendrai fortement. »
Vol lui sourit et dit
« Vous constaterez que mon alibi est solide. »
Il ne parut pas s'apercevoir que l'avocat ne répondait pas. Ce dernier reprit
« Tout dépend du témoignage de Janet McKenzie. Ce qui est clair, c'est qu'elle vous déteste. »
« Je ne vois pas la raison de sa haine. »
« Oui. Ah, maintenant, voyons Madame Vol, votre épouse. »
pensa Mayern en sortant.
L'avocat était très ennuyé de la tournure que prenait l'affaire. Le ménage Vol habitait une vilaine petite maison proche de la pelouse de Paddington. Il s'y rendit. En réponse à son coup de sonnette, une grosse femme, mal vêtue, vint ouvrir.
« Madame Vol est-elle de retour ?»«
Oui, depuis une demi-heure, mais je ne sais pas si vous pouvez la voir. »
« Si vous voulez lui donner ma carte, je suis certain qu'elle me recevra. »
La femme lui jeta un regard dubitatif, s'essuya les mains sur son tablier et prit la carte. Puis elle ferma la porte au nez du visiteur.
Toutefois, son attitude s'était un peu modifiée quand elle réapparut en disant « Veuillez entrer. »
Elle l'introduisit dans un minuscule salon et Mayern, qui regardait un dessin accroché au mur, sursauta en apercevant une grande femme pâle qui était entrée si doucement qu'il ne l'avait pas entendue.
« Maître Mayern, vous êtes l'avocat de mon mari, n'est-ce pas ? C'est lui qui vous envoie. Veuillez vous asseoir. »
Avant qu'elle ait parlé, il ne s'était pas rendu compte qu'elle n'était pas anglaise.
« Chère madame, il ne faut pas vous laisser abattre. »
Puis il s'arrêta court. Il paraissait tellement évident qu'elle n'avait pas la moindre intention de perdre courage et restait maîtresse de ses nerfs.
Voulez-vous me mettre au courant ? Il me faut tout savoir. Ne cherchez pas à me ménager car je veux connaître le pire.
Elle hésita, puis répéta d'une voix plus sourde, avec une énergie qui déconcerta l'homme de loi.
Je veux savoir le pire.
Mayern lui raconta son entrevue avec Léonard Vol. Elle l'écouta attentivement, en hochant la tête de temps à autre.
Je comprends. Il veut que j'affirme que ce soir-là, il est rentré à 9h20.
C'est bien exact.
Là n'est pas la question. Si je le dis, sera-t-il acquitté ? Me croira-t-on ?
Le juriste fut décontenancé qu'elle eût si vite touché le point important. Elle reprit.
Je désire savoir si cela suffira. Une autre personne soutiendra-t-elle ma déclaration ?
Elle parlait d'un ton si vibrant que Meyer eut une vague inquiétude. Il répondit comme à regret.
Jusqu'à présent, il n'y a personne.
Je vois.
Puis elle ne fit pas un mouvement pendant une ou deux minutes, tandis qu'un petit sourire se jouait sur ses lèvres. L'inquiétude de l'avocat allait croissante.
Madame, je sais ce que vous éprouvez.
Croyez-vous ? Je me le demande.
Dans un cas pareil...
Dans un cas de ce genre, j'ai l'intention de me débrouiller seule.
Meyern la regarda avec stupeur.
Chère madame, vous êtes désemparée. Votre grande affection pour votre mari...
Plaît-il ?
La sécheresse du ton fit sursauter l'avocat. Il répéta d'une voix hésitante.
Votre grande affection pour votre mari.
Romaine inclina doucement la tête et l'étrange sourire s'accentua.
Vous a-t-il dit que je lui étais dévouée ? Ah oui, je comprends qu'il l'a dit. Que les hommes sont bêtes, bêtes, bêtes.
Elle se leva brusquement et toute l'émotion intense que le juriste avait devinée depuis un instant parut concentrée dans sa voix.
Je le hais. Je le hais et je désire le voir pendre et mourir.
C'était Témoin à charge d'Agatha Christie avec Anne Wartel et Christian Allers. Réalisation Jacques Béraud.
Si vous voulez connaître la suite, il faudra écouter France Culture demain à 14h.
Pour notre part, nous n'attendrons pas 24 heures pour connaître la suite de l'histoire. La voici immédiatement. Le goût pour le suspense a ses limites.
Les nouvelles du crime. Texte choisi et présenté par Francis Lacassin. Aujourd'hui, témoin à charge d'Agatha Christie. Deuxième partie.
Hier, nous avons laissé Maître Meyern absolument confondu, abasourdi, choqué par l'attitude haineuse de la femme de son client Léonard Vol. L'avocat aura bien du mal à sauver la tête du jeune Léonard Vol, que tout, absolument tout, désigne comme l'assassin de Miss French, une charmante vieille demoiselle qui s'était entichée de ce jeune homme désargenté, au point de le désigner pour seul héritier dans son testament. Tel serait le mobile de l'assassinat, mais Vol crie son innocence et prétend avoir tout ignoré des intentions de Miss French. La vieille bonne de celle-ci affirme au contraire qu'il était parfaitement informé, et cette domestique ajoute même qu'elle a reconnu la voix de Vol parlant avec la vieille demoiselle quelques minutes avant son assassinat. « Elle se trompe, » répète Vol. « Et d'ailleurs, à l'heure du crime, j'étais auprès de ma femme, Romaine Heilger. » Maître Meyern vient donc demander à la jeune femme de confirmer cet alibi. Au lieu de le faire et de sauver ainsi Vol, elle laisse exploser sa haine contre lui.
Meyern recula devant la fureur qui émanait des yeux étincelants de Romaine. Celle-ci s'avança d'un pas et reprit.
Et si je vous disais que ce fameux soir, il n'est pas rentré à 9h20, mais à 10h30. Il vous a dit qu'il ignorait qu'on lui avait légué de l'argent. Si je vous affirmais qu'il était au courant et qu'il a tué pour le toucher. Il me l'a avoué ce soir-là quand il est rentré. Il y avait du sang sur sa veste. Et si je me levais à la barre des témoins pour le crier tout haut?
Elle défiait son interlocuteur du regard. Au prix d'un gros effort, il dissimula sa stupeur croissante et tenta de parler avec calme.
Vous ne pouvez témoigner contre votre mari.
Ce n'est pas mon mari.
Elle avait parlé si vite qu'il crut avoir mal entendu.
Ce n'est pas mon mari, j'étais actrice à Vienne. Mon mari est vivant, mais dans un asile d'aliénés, de sorte que je ne pouvais pas épouser Vol. J'en suis heureuse maintenant.
Voulez-vous répondre à une question ? Demanda Mayern, qui parvint à reprendre son aspect calme et froid habituel. Pourquoi êtes-vous si dur envers Vol ? Elle sourit un peu, secoua la tête et répondit
« Vous voudriez le savoir, mais je ne le dirai pas. Je garderai mon secret. »
L'avocat fit entendre sa petite toux sèche, se leva et répondit
« Il n'y a aucune raison pour que nous prolongions cet entretien. Je communiquerai avec vous après avoir vu mon client. »
Romaine s'approcha de lui et plongea le regard de ses beaux yeux noirs dans ceux de son adversaire.
« Dites-moi, quand vous êtes arrivé ici, supposiez-vous sincèrement qu'il était innocent ?»«
Oui. »«
Vous n'êtes qu'un pauvre petit bonhomme.
»« Et je crois encore à son innocence. Bonsoir, madame. »
Il sortit en emportant l'image de la violence de cette créature et pensa « Cette affaire va être diabolique. »
Il jugeait le cas infernal et considérait cette Romaine comme très dangereuse. Que pouvait-il faire? Ce malheureux garçon n'avait pas la moindre chance de s'en tirer. Peut-être, après tout, était-il coupable?
Non, pensa Mayern.
Il y a trop de preuves contre lui. Je ne crois pas ce que dit cette femme. Elle fabriquait toute l'histoire. Mais elle n'osera pas la répéter au tribunal.
Toutefois, il eût souhaité en être plus sûr. Les débats furent brefs et dramatiques. Les principaux témoins de l'accusation furent Janet Mackenzie, domestique de la morte, et Romaine Elger, de nationalité autrichienne, maîtresse de l'accusé. Maître Mayern écouta le terrible récit que fit celle-ci et qui était en tout point semblable à ce qu'elle lui avait dit. Le prisonnier réserva sa défense et fut déféré au tribunal. Mayern ne savait plus que faire. L'accusation portée contre Léonard Vol était terrible et même le célèbre avocat qui s'était chargé de la défense ne gardait que peu d'espoir. Il déclara d'un air dubitatif
« Si nous pouvons minimiser les déclarations de cette Autrichienne, nous pourrons peut-être obtenir un résultat, mais le cas se présente mal. »
Mayern concentrait ses efforts sur un seul point. Convaincu que Vol disait la vérité et avait quitté la maison de la victime à 21h, quel était l'homme que Janet entendit parler à Miss French à l'admis ? Le seul espoir paraissait être un neveu de la vieille demoiselle, de réputation peu brillante, et qu'il avait autrefois souvent cajolé et menacé pour en obtenir de l'argent. Mayern avait appris que Janet Mackenzie était fort attachée à ce garçon et n'avait jamais cessé de le recommander à Miss French. Il pouvait s'être rendu chez sa tante après le départ de Vol, car on ne l'avait pas vu aux endroits qu'il fréquentait d'ordinaire. D'autre part, les enquêtes de l'homme de loi furent négatives. Nul n'avait vu Léonard Vol rentrer chez lui ou sortir de chez Miss French. Personne ne vit non plus un autre homme dans le voisinage. La veille du procès, Maître Mayern reçut une lettre qui devait entraîner ses pensées dans une toute nouvelle direction. Elle lui parvint au courrier de l'après-midi. Mal écrite, sur du papier fort ordinaire, enfermé dans une enveloppe sale, où le timbre était collé de travers. Le juriste l'a relu deux fois avant d'en comprendre le sens. « Cher monsieur, vous êtes le type avocat qui s'occupe du jeune malheureux. Si vous voulez que cette sale fille peinte soit connue pour ce qu'elle est, ainsi que son tas de mensonges, venez au 16 de Shawrent Stepney ce soir. Ça coûtera 2000 francs. Demandez Mam Moxon. Madame Moxon. » Le juriste lut et relut l'étrange épître. Ce pouvait évidemment être une attrape, mais en réfléchissant, il fut convaincu que cette lettre était sincère et qu'il y avait là une dernière planche de salut pour le prisonnier. La déposition de Romain Elguer le perdrait sûrement, et le système que comptait adopter la défense, à savoir que la déclaration d'une femme qui vivait d'une manière immorale ne pouvait être prise en considération, était assez faible. Mayern estimait devoir essayer de sauver son client. Il lui fallait donc se rendre à Shawrent's. Il trouva difficilement la maison en ruine, dans une impasse nauséabonde, mais finit par l'atteindre. Ayant demandé Madame Moxon, on lui indiqua le troisième étage, il monta, frappa, et ne recevant aucune réponse, frappa une seconde fois. Il entendit alors des pas traînants, une porte s'entr'ouvrir avec précaution, et une personne toute courbée jeta un regard dans le couloir, puis tout à coup la femme fit entendre un rire grinçant et écarta lentement et largement le battant.
« Ah, c'est donc vous, petit. Vous êtes bien seul. Vous me tendez pas de piège. Très bien, vous pouvez entrer. »
L'homme de loi pénétra en hésitant dans une pièce très sale, mal éclairée par une vieille lampe à gaz. Il y avait un lit en désordre dans un coin, une table en bois blanc, deux chaises branlantes. Brusquement, Mayern vit mieux la locataire de ce peu séduisant logement. D'âge moyen, un peu bossu, elle avait une masse de cheveux gris en désordre et une écharpe lui entourait la figure. Voyant qu'il la regardait, elle éclata du même rire brutal et dit
« Ah, vous vous demandez pourquoi je cache ma beauté, chérie. Avez-vous peur qu'elle vous séduise? Vous allez voir. »
Elle dénoua l'écharpe et Mayern recula involontairement devant la tache rouge qui recouvrait un côté du visage. Elle le renoua et dit
« Ah, vous n'avez pas envie de m'embrasser, petit. Ça ne m'étonne pas pourtant. J'ai été une jolie jeune fille il n'y a pas aussi longtemps que vous le croyez. C'est le vitriol qui a fait ça, mais je me vengerai. »
Et elle se mit à blasphémer affreusement, puis finit par se taire en ouvrant et fermant les mains nerveusement.
« Assez !» dit sévèrement Mayern. « Je suis venu parce que je suppose que vous pouvez me fournir un renseignement qui innocentera Léonard Vol, mon client. Est-ce vrai ?»
La mégère lui jeta un regard astucieux et grinça.
« Et l'argent, petit, 2000 balles, vous savez ?»«
Vous avez le devoir de témoigner et on peut vous y obliger. »«
C'est pas vrai. Je suis vieille et je sais rien. » Mais si vous me donnez 2000 balles, peut-être que je pourrais vous donner une idée ou deux.
Quel genre d'idée?
Diriez-vous d'une lettre? Une lettre d'elle? Vous vous occupez pas comment je l'ai trouvée. C'est mon affaire. Et elle vous sera utile, mais je veux 2000 balles.
Mayern la regarda froidement et se décida.
« Je vous donnerai 1000 francs, pas plus, et seulement si la lettre est bien telle que vous le prétendez. »«
1000 francs ?»«
1500 francs, et c'est mon dernier mot. »
Il se leva comme pour partir, puis tout en surveillant la vieille, il sortit un carnet de sa poche et compta 15 billets.
Vous voyez, c'est tout ce que j'ai sur moi, c'est à prendre ou à laisser.
Il avait compris que la vue des billets serait souveraine. Elle blasphéma, grogna, mais finit par s'approcher du lit et retira quelque chose de sous le matelas.
Voilà. C'est la première, la plus intéressante.
La vieille jeta un paquet de lettres à Mayerne, qui dénoua la ficelle et regarda les feuilles de son air calme. La mégère qui le surveillait ne put rien lire sur son visage. Il lut chaque lettre, puis reprit la première et la relut. Après quoi, il rattacha la liasse avec soin.
« Je vous ai dit vrai, c'est pas chérie. Ces papiers, l'affront condamné. »
L'homme de loi mit le paquet dans sa poche et demanda
« Comment vous êtes-vous procuré cette correspondance ?»«
Je peux pas le dire, mais je sais encore autre chose. Au tribunal, j'ai entendu ce qu'a dit la traînée. Tâchez donc de savoir où elle était à 22h30, alors qu'elle prétendait être chez elle. Demandez au cinéma de la rue du Lion, on se souviendra de cette belle femme. Qu'elle soit maudite !»
Quel est l'homme auquel elle écrivait ? La lettre n'indique que son prénom.
La vieille se mit à parler d'une voix rauque et acérée et desserrée les poings, puis elle balbutia.
C'est lui qui m'a défigurée. Il y a longtemps, elle n'était alors qu'une enfant, mais elle me l'a pris. Et quand j'ai voulu les punir, il m'a jeté le maudit poison à la figure et elle s'est mise à rire, la maudite. Il y a des années que je la guette, que je la suis, que je l'épie. Mais maintenant, je la tiens. Elle sera punie, dites, monsieur l'avocat. Elle souffrira.
On la condamnera sans doute à une peine de prison pour faux témoignage.
Elle sera enfermée. C'est ça que je veux. Vous partez. Où est mon argent? Mon bon argent?
Mayerne déposa les billets sur la table. Puis il se détourna et quitta la pièce nauséabonde. Il regarda avant de franchir le seuil et constata que la mégère caressait les billets. Sans perdre un instant, il trouva le cinéma de la rue du Lion et montra aux employés une photographie de Romaine Elguer qu'ils reconnurent aussitôt. Elle était arrivée en compagnie d'un homme après 22 heures, le fameux soir, et ils étaient demeurés jusqu'à la fin de la projection. Maître Meyer n'était satisfait. Romaine Elguer avait fait une déclaration mensongère d'un bout à l'autre, poussée par la haine violente qu'elle portait à vol. L'homme de loi se demandait s'il saurait jamais ce qui motivait cette haine. Qu'avait pu lui faire Léonard Vol? Il avait paru stupéfait quand l'avocat lui raconta son entrevue avec Romaine, et il avait déclaré n'y rien comprendre. Pourtant, Maître Mayerne jugea ensuite son indignation quelque peu forcée. Après avoir consulté sa montre en quittant le cinéma, l'avocat fit signe à un taxi en murmurant « Il faut que je mette Sir Charles au courant immédiatement. » Le procès de Léonard Vol, accusé d'avoir assassiné Emily French, avait fait naître un vif intérêt. D'abord, le prisonnier était jeune et beau garçon, puis Romaine Elguer, principal témoin de l'accusation, avait eu son portrait dans plusieurs journaux, de sorte que diverses versions circulaient quant à son origine et à son passé. L'audience débuta dans le calme. Plusieurs rapports techniques furent rendus publics. L'avocat de la défense parvint à relever les contradictions dans le récit de la bonne quant aux relations de vol avec Miss French, puis il souligna que, tout en déclarant avoir entendu une voix d'homme dans le salon le soir du crime, rien ne prouvait que ce fût celle de l'accusé. Il parvint à démontrer qu'un sentiment de jalousie envers le prisonnier constituait le mobile auquel obéissait le témoin. Le témoin suivant fut appelé.
Vous vous appelez Romaine Elger ?
Oui.
Vous êtes autrichienne ?
Oui.
Depuis 3 ans, vous avez vécu avec le prisonnier en vous faisant passer pour son épouse ?
Pendant un court instant, les yeux de Romaine se croisèrent avec ceux du prisonnier et jetèrent une lueur étrange. Elle répondit :
Oui.
L'interrogatoire se poursuivit et peu à peu, les détails accusateurs se précisèrent. Le soir du crime, Vol était parti en emportant une barre de fer. Il était rentré à 10h20 et avait avoué qu'il venait de tuer la vieille dame. Ses manchettes étaient tachées de sang et il les avait brûlées dans le fourneau de la cuisine. Puis, il terrorisa Romaine par des menaces de mort pour obtenir son silence. À mesure que Romaine parlait, les sentiments des juges, d'abord favorables aux prisonniers, lui devenaient entièrement hostiles. Lui s'affaissait, la tête basse comme un homme qui se sent perdu. On remarqua que l'avocat de Romaine, lui-même, cherchait à minimiser cette animosité de sa cliente, car il eût préféré la voir moins agressive. Le défenseur de Vol se dressa grave, menaçant. Il accusa la femme d'avoir menti tout au long de sa déposition. À l'heure du crime, elle n'était même pas chez elle. Elle était éprise d'un autre homme et essayait délibérément de faire condamner Vol en l'accusant d'un crime qu'il n'avait pas commis. Romaine nia avec une assurance tranquille. Vint ensuite l'étrange et spectaculaire dénouement. La lecture de la terrible lettre, faite à haute voix au milieu d'un silence impressionnant. « Mon Max bien-aimé, le destin nous a délivrés. Il a été arrêté pour meurtre, oui, pour avoir assassiné une vieille dame, lui, Léonard, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Le pauvre imbécile. Je dirais qu'il est rentré ce soir-là couvert de sang et qu'il m'a tout avoué. Je le ferai pendre, Max. Et en mourant, il comprendra que c'est Romaine qui l'a tué. Et ensuite, chérie, nous connaîtrons enfin le bonheur. » Il y eut des experts prêts à jurer que l'écriture était celle de Romaine Elger. Mais ce ne fut pas nécessaire, car lorsqu'on lui montra la lettre, elle s'effondra et avoua. Léonard Vol était bien rentré à 9h20, comme il l'avait dit, et elle avait inventé le reste pour le perdre. Cette fausse déposition porta un coup fatal à l'accusation. Sir Charles fit comparaître ses témoins. Vol lui-même fut interrogé et déposa avec un calme qui réduisit à néant toutes les questions des accusateurs. Ceux-ci tentèrent de se rattraper, mais sans succès. Le résumé du ministère public ne fut pas entièrement favorable à Vol, mais les jurés avaient réagi et ne tardèrent pas à déclarer « Nous estimons que l'inculpé n'est pas coupable. » Il était libre. Le petit Mayern se leva vivement pour aller féliciter son client et commença à frotter vivement son lorgnon. Puis il s'arrêta, car sa femme lui avait dit la veille que ce geste devenait un véritable tic.
C'était curieux, car il ne s'en rendait pas compte. Cette affaire était vraiment fort intéressante, et il pensa à Romain Elger, dont la personnalité étrange avait particulièrement retenu son attention. Dans sa maison de Paddington, elle lui avait donné l'impression d'être une femme énergique mais calme, tandis qu'au tribunal, elle étincela comme une fleur des tropiques. En fermant les yeux, Mayerne crut la revoir pencher en avant son corps superbe, tandis qu'elle refermait et ouvrait sans cesse la main droite. Curieuse habitude, probablement, mais n'avait-il pas vu récemment une autre personne avoir le même tic? L'avocat sursauta, car la mémoire lui revenait brusquement. C'était la vieille mendiante de Shaw's Rents. Mayerne, dont la tête tournait, se figea sur place. C'était impossible, absolument impossible. Pourtant, Romain Elger était actrice. Le juge s'approcha de lui par derrière et lui frappa sur l'épaule.
« Avez-vous félicité votre client? Il s'en est tiré de justesse. Venez le voir. »
Mais le petit défenseur recula car il ne souhaitait plus qu'une chose, voir Romain Elger face à face. Il n'en eut pas l'occasion tout de suite, mais dès que ce fut possible et qu'il eut dit ce qu'il pensait, elle répondit.
« Donc vous avez deviné. Ce ne fut pas difficile pour moi car la clarté de la lampe à gaz était trop faible pour que vous puissiez discerner mon maquillage. »«
Mais pourquoi? Pourquoi ?»«
Pourquoi j'ai joué cette comédie? Il me fallait le sauver. Et le témoignage d'une femme dévouée n'eût pas suffi. Vous me l'aviez dit vous-même. » Toutefois, je connais la psychologie des foules. Si mes paroles à l'audience semblaient m'être arrachées, elles me condamneraient aux yeux de la loi pour un premier témoignage faux. Mais le prisonnier bénéficierait aussitôt d'un préjugé favorable.
Et le paquet de lettres, pourquoi autant?
Mais s'il n'y en avait eu qu'une, la plus importante, elle eût paru fabriquée.
Alors, le dénommé Max...
n'a jamais existé, mon cher.
« Je persiste à croire, déclara Mayerne d'un air vexé, que nous aurions pu faire acquitter vol par une procédure normale. »«
Je n'ai pas osé le risquer. Vous, vous le supposiez seulement innocent. »«
Je comprends, murmura Mayerne. Vous, vous en étiez sûr. »«
Vous n'y êtes pas. »
répliqua Romain.
Moi, je savais qu'il était coupable.
C'était Témoin à charge d'Agatha Christie. Avec les voix d'Anne Vartel et de Christian Allers. Prise de son, Monique Burger. Réalisation, Jacques Béraud.
Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture les 8 et 9 août 1985.